Merci Mathieu. Comme il a dit, Mathieu était chez nous à l'église Connexion. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, parce que j'étais ici, mais j'ai eu des échos de mes anciens et des membres de l'église qui ont dit que ça s'est très bien passé, qu'il n'a pas dit de bêtises. Merci Mathieu. Vraiment, on ne s'attendait pas à autre chose que cela. Vous avez les salutations évidemment de l'église Connexion qui. Bon, on parle souvent des églises sœurs. On est des églises sœurs. Votre église a vraiment été une église sœur pour nous. Vraiment. Et nous n'aurions pas pu concrètement et de manière très pratique implanter notre église sans l'aide de cette église et de ces autres églises que Mathieu a mentionnées tout à l'heure dans Paris. Vraiment, nous sommes très, très, très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Comme il a dit, on a 5 ans et demi. On a implanté en septembre 2014. Moi, je suis américain, je suis venu en France il y a 16 ans maintenant. Et puis, on a implanté l'église Connexion en 2014. Et Dieu nous a beaucoup, beaucoup bénis. On a grandi assez rapidement à Châtelet-Léal. À la fois parce que les églises de notre réseau envoyaient des visiteurs au départ, les 30 premières personnes qu'on avait dans notre église, c'était des gens qui sont venus ailleurs, y compris ici, où les gens de l'église, les pasteurs ont dit, on est très content de vous avoir, mais ne savez-vous pas qu'il y a une église en implantation à Châtelet-Léal, vous devrez aller les visiter. Les premières personnes qu'on avait sont venues chez nous comme ça. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour cela, parce que deux parmi eux sont nos anciens maintenant. Donc vous avez bien choisi les envois. Dans notre église, en plus d'être une église jeune en termes d'âge de l'église, on est une église remplie de jeunes. L'âge moyen de notre église, c'est 25 ans. Entre 25 et 30, quelque part. Et ce sont des gens qui, soit qui découvrent la Bible pour la première fois, soit qui prennent la Bible au sérieux pour la première fois, et ils ont beaucoup, beaucoup de questions. Toujours beaucoup de questions. Plusieurs posent des questions théologiques assez poussées. Mais une des questions qu'on voit le plus fréquemment posées dans notre Église est finalement une question assez simple. Et c'est simplement la question de qu'est-ce qu'un bon chrétien? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'un bon chrétien? Alors, par curiosité, j'ai posé cette question à beaucoup de personnes différentes. Et presque tout le monde m'a donné une de deux réponses, dites plus ou moins de la même façon. Donc la première réponse, c'était un bon chrétien, c'est un chrétien qui obéit au commandement de Dieu. Okay? La deuxième réponse, c'est un bon chrétien est celui qui place sa confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Alors, il faut savoir que les deux réponses sont au moins en partie vraies, mais les deux réponses sont incomplètes. Et donc ce qu'on va faire, on va essayer de donner une réponse un peu plus complète à cette question aujourd'hui. Et pour faire cela, j'aimerais attirer votre attention sur la première lettre de Jean, la première épître de Jean. Donc dans les livres de l'Église, c'est à la page 1391. On va voir la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2. Et on va voir le texte deux fois. Donc la première fois, on va juste faire un tour rapide pour voir comme Jean nous présente le cycle de la vie chrétienne. Après, on va prendre un pas de recul pour parler des déformations qu'on voit souvent apportées à la vie chrétienne. Et puis après, on va revenir sur le texte une deuxième fois pour voir comment Jean nous donne une réponse plus approfondie qu'on imaginait en plaçant Dieu bien au centre de la vie chrétienne. Donc, parlons de ce cycle d'abord. Dans ce passage, Jean nous présente la vie chrétienne comme un cycle, pas comme un processus linéaire, genre une étape après une autre, étape après une autre, mais plutôt comme un cycle qui se répète à l'infini. Donc, on va lire à partir du chapitre 1, verset 5, et on va apprendre notre lecture petit à petit, si ça vous va, au fur et à mesure qu'on avance. Donc, 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Il dit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons ou confessons ou avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors on va s'arrêter là pour l'instant. Voici la première chose que Jean nous montre. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être honnêtes concernant notre état. On est, par notre propre nature, des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui se sont rebellées contre Dieu. Nous désirons nos voies plutôt que les siennes, nous désirons nos rêves plutôt que la bonne volonté de Dieu pour nous. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle du péché. On est tous coupables de cela. Et si on essaie de dire autrement, nous mentons. C'est simple, c'est clair, tout le monde est pareil, on est tous comme ça, si on dit le contraire, on est menteur. Et en plus, on accuse Dieu de mentir, parce que c'est ça qu'il dit de nous. Alors le premier devoir du chrétien, c'est d'être honnête tout simplement à ce sujet, d'admettre et de confesser nos péchés devant lui. Après, on va voir que l'intention claire de Jean, c'est que ses lecteurs obéissent fidèlement à Dieu. Mais Jean n'est pas naïf. Il sait que peu importe combien ses lecteurs ont de la bonne volonté, combien ils veulent faire ce qu'il faut, ils luttent toujours avec cette ancienne nature, avec le péché, cette rébellion contre Dieu qui est en nous tous. Et donc, il nous appelle à faire confiance à notre avocat et notre défenseur Jésus-Christ. Donc, lisons chapitre 2, versets 1 et 2. Il dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas ». Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Jésus-Christ est une victime expiatoire. Alors, c'est un peu difficile de voir ce qu'il entend par là. Une victime expiatoire, c'est un sacrifice qui satisfait ou qui enlève la colère. Alors, je ne veux pas présumer que tout le monde ici a déjà entendu ces choses, et donc très rapidement, pourquoi est-ce que c'était nécessaire de satisfaire la colère de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a de la colère envers nous? On sait que la Bible dit que Dieu est amour, ce verset très célèbre est dans cette même lettre, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour, comment est-ce qu'un Dieu qui est amour peut agir par colère en jugeant les gens pour leurs péchés? Eh bien, il est important de comprendre que c'est l'amour de Dieu qui le pousse à la colère. Et ce n'est pas le contraire. Nous pouvons crier le pardon autant qu'on veut, mais imaginons que quelqu'un agresse ou abuse vos enfants. Vous ne serez pas indifférent à cela. Vous serez en colère. Vous demanderez, vous exigerez la justice et vous aurez absolument raison de le faire. Non pas malgré votre amour, mais précisément à cause de votre amour. L'amour n'est pas contraire au jugement, l'amour exige le jugement quand un mal a été commis contre quelqu'un ou contre quelque chose qui est précieux et valable et qu'on aime. Et c'est là notre situation, mais dans l'autre sens. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux, de plus digne dans ce monde, et nous avons tous rejeté cette gloire. Et donc la justice de Dieu exige la punition. Sa colère brûle contre notre péché et nous le méritons absolument. Et donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre remplaçant, en quelque sorte. Il a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre et il a subi la punition que nous méritons à la place de ceux qui croient en lui. Il a pris sur lui-même les péchés de ses enfants et il s'est fait punir à leur place en mourant à la croix. Il est notre sacrifice, notre victime expiatoire. Et il est aussi, j'en dis, notre défenseur. Il se tient maintenant à la droite de Dieu, ressuscité et vivant et glorifié, comme la preuve que son sacrifice a été suffisant pour payer le prix de nos fautes. Et donc, grâce à cela, Jean nous appelle à faire confiance à Christ, à croire que sa mort a apaisé la colère de Dieu contre nous et que Dieu en est satisfait. Alors, on est honnête concernant nos péchés, on fait confiance à Jésus-Christ pour notre pardon et ensuite, on est appelé à répondre à la grâce que Dieu nous a montrée en obéissant à ses commandements. Donc, chapitre 2, verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Nous voyons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous plaçons en lui notre foi. Et à cause de son amour pour nous, nous lui obéissons. C'est un peu le schéma que Jean nous donne. Mais évidemment, il n'y a aucun d'entre nous qui n'arrivera à faire cela parfaitement. À parfaitement confesser nos péchés, à parfaitement faire confiance à Christ, à parfaitement obéir à tous ses commandements. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Tous les jours, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on revient au début. Chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Voilà la vie chrétienne, jour après jour après jour. C'est un cycle qui ne se termine jamais. Confession, confiance, obéissance. Confession, confiance, obéissance, en boucle jusqu'à la fin de nos vies. Alors on pourrait dire qu'un bon chrétien confesse son péché devant ce Dieu saint qui fait confiance en Jésus-Christ, son défenseur et son substitut, et qu'il obéit au commandement de Dieu, que c'est ça un bon chrétien. Et c'est une réponse qui n'est pas trop mal, mais il ne faut pas arrêter là, parce que c'est une réponse qui est superficielle. Il lui manque quelque chose qui est bien présent dans notre texte, mais qu'on a un peu plus de mal à voir. On a tendance à nous focaliser sur les choses que nous avons besoin, qu'on nous dit de faire, des impératifs, sans nécessairement voir pourquoi Dieu nous dit de faire ces choses-là. Alors pour nous aider à voir cela, revenons un petit peu à notre question du début. Qu'est-ce qu'un bon chrétien ? Comme j'ai dit, il y a deux réponses un peu classiques à cette question. La première, c'est un bon chrétien est un chrétien qui obéit au commandement de Dieu. Et c'est vrai. Mais toute seule, cette réponse pourrait nous pousser vers une pensée qu'on appelle légaliste. Alors je dis souvent cela à mon église, les mots théologiques qu'on emploie ne sont pas importants, mais les idées derrière, les concepts derrière le sont. Donc si vous oubliez le mot légaliste, ce n'est pas grave, mais le concept derrière est très important. Le légalisme, c'est cette pensée qui imagine que l'approbation de Dieu, son amour, notre salut, dépend des bonnes choses que nous faisons ou à quel point on arrive à obéir à Dieu. Imagine un enfant avec un père abusif. Ce pauvre enfant sait que s'il fait certaines choses et s'il ne fait pas d'autres choses, alors il aura l'approbation de son père. Et s'il ne les fait pas, son père va lui tomber dessus. Il a appris avec les années comment manipuler son père pour qu'il reste calme et pour qu'il lui montre de l'amour. Mais il n'y a aucun vrai amour dans cette relation-là. Qui voudrait de cette relation-là ? Mais bizarrement, peu importe combien on connaît l'Évangile, les chrétiens ont presque toujours cette idée au fond de l'esprit que l'approbation de Dieu dépend de leur obéissance. On a presque toujours cette idée qui dit « Dieu ne m'aimera pas si je ne lui obéis pas assez bien ». Nous nous en voulons lorsque nous échouons et nous imaginons que Dieu nous en veut aussi, qu'il ressent la même chose que nous, on ressent. Ou alors, malheureusement, assez souvent c'est ça qui arrive, on en veut aux autres, qui n'arrivent pas à obéir comme la parole de Dieu nous dit de faire, comme si nous étions mieux. C'est ça la pensée légaliste. L'autre réponse classique, comme on l'a vu, c'est un bon chrétien, c'est un chrétien qui place sa confiance en le sacrifice de Christ pour son salut. Alors ça aussi, c'est vrai. Mais encore, toute seule, elle pourrait nous pousser à une pensée qui est également dangereuse, qu'on appelle l'antinomisme. Alors l'antinomisme prend une bonne vérité et l'applique d'une mauvaise manière. La bonne vérité, c'est que puisque Jésus est mort pour nos péchés, il n'y a aucun échec, il n'y a aucun péché qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est merveilleusement, glorieusement vrai. On ne veut jamais dire le contraire. Mais il y a des gens qui vont entendre cela, qui vont lire par exemple le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains ou le début du chapitre 2 de 1 Jean, et ils vont se dire « Ok, génial, si rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, alors du coup, je n'ai pas besoin vraiment d'obéir à ses commandements non plus, parce qu'il me pardonne. Super, je peux faire ce que je veux. » Si l'image du chrétien légaliste, c'est celle d'un enfant abusé, l'image du chrétien antinomiste, c'est celle d'un enfant gâté. Mon fils, il est en CE1. On passe pas mal de temps avec les parents des enfants de notre classe et on les voit avec leurs enfants. On voit des enfants qui font mais n'importe quoi sous les yeux de leurs parents. Et la seule chose que les parents font, c'est « Non, mais arrête. Arrête. Non, mais s'il te plaît. Non, arrête, arrête. » Mais c'est frustrant. Après 30 secondes, on en a marre de le voir. On a envie juste de « Mais non. » De faire en sorte que les enfants, on ne peut jamais faire cela, et on n'a jamais fait, mais on a envie. Ces parents, imagine, qui montrent de l'amour envers leurs enfants parce qu'ils les laissent faire tout ce qu'ils veulent, alors que c'est faux. Ils privent leurs enfants de ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre une vie heureuse dans ce monde. Ils vont avoir du mal plus tard. Les chrétiens entendent parfois les commandements de la Bible comme ce bruit de fond que deviennent les voix des parents pour les enfants gâtés. Mais arrête, non, ne fais pas ça, c'est pas bien. On peut imaginer que puisque Jésus a apaisé la colère de Dieu, puisque nous sommes sauvés une fois pour toutes, notre obéissance ou notre désobéissance ne change finalement rien. Et peu importe combien vous connaissez l'Évangile, il y a de fortes chances que vous luttez avec ça aussi. Ça vous est déjà arrivé de vraiment vouloir quelque chose que la Bible dit est clairement à l'encontre des commandements de Dieu et de sa volonté? Qu'est-ce qui se passe? On est dans le moment de tentation, on fait ce débat intérieur entre nous pour voir ce qu'on va faire et on se dit mais Dieu me pardonnera. Si vous confessez nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ouh, super! Pour la plupart d'entre nous, nos vies sont comme un pendu qui se balance entre ces deux extrêmes, entre le légalisme et l'antinomisme. Et on imagine que là où on devrait être, c'est quelque part au milieu des deux. Pas trop légalisme et pas trop antinomiste non plus. Si vous avez tendance à être plus légaliste, à penser que vous devez gagner l'approbation de Dieu par les bonnes choses que vous faites, alors il vous faut une petite dose d'antinomisme, un petit peu de grâce. Mais t'inquiète pas, Dieu te pardonnera. Et si vous avez tendance à être naturellement antinomiste, il faut être un peu plus légaliste, un peu plus dur avec vous-même. Mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. On ne peut pas combattre l'un problème avec l'autre parce qu'ils sont tous les deux nés de la même racine. Sinclair Ferguson appelle le légalisme et l'antinomisme des jumeaux non identiques d'une même mère. Tous les deux sont nés d'un mensonge, le mensonge que Satan a soufflé à Adam et Ève dans le jardin, qui dit que Dieu n'est pas vraiment bon, qui ne veut pas vraiment que nous soyons heureux. Alors si nous obéissons à ses commandements, il va nous manquer quelque chose et nous serons misérables. Le légaliste doute de la grâce et de l'amour de Dieu et donc il vit sous une pression constante de gagner son approbation. Et l'antinomisme doute que les commandements de Dieu sont vraiment bons pour nous. Et il voit le sacrifice de Christ comme le moyen de Dieu de nous secourir du devoir d'obéir aux commandements. Alors la raison pour laquelle je mentionne ces deux problèmes, c'est que ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Ces deux problèmes, ils étaient présents à l'époque de Jean, et même s'ils ne se servent jamais de ces mots légalistes ou antinomistes, dans notre texte, ils s'attaquent violemment à ces deux idées. Mais ce qui est surprenant dans le texte de Jean, c'est qu'ils ne s'attaquent pas, à ces idées en parlant de nous. Nous, les chrétiens, on n'est même pas le sujet du texte. Regardons encore une fois, on va faire le tour de nouveau. Jean construit sa lettre de plusieurs parties. Et ces parties se tournent les unes autour des autres, un peu comme des engrenages dans une moteur. Et l'engrenage central autour duquel les autres se tournent, le sujet de sa pensée, est toujours Dieu lui-même manifesté en Jésus-Christ. Donc lisons encore chapitre 2, verset 1. On va lire un peu désordonné. Chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Jésus-Christ est l'engrenage central ici. C'est le centre autour duquel les autres parties se tournent. Jésus est notre victime expiatoire. Pourquoi? Parce que, chapitre 1, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est parfaitement saint, il est parfaitement bon, il est parfaitement juste. Mais nous ne sommes pas saints. Nous avons rejeté Dieu, nous avons préféré nos propres désirs pécheurs à sa volonté pour nous. Chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors nous nous trouvons condamnés par la juste colère de Dieu. Et notre seule voie de secours, c'est qu'un sacrifice soit donné pour nous. Et puisque Jésus-Christ est ce sacrifice parfait, puisque Dieu nous a donné une victime expiatoire et un défenseur, chapitre 1, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors Jésus-Christ rend notre confession possible. On ne devrait pas pouvoir venir à Dieu pour confesser nos péchés. Normalement, il faudrait que Dieu nous punisse parce que c'est ça qu'on mérite, c'est ça qui est juste. Mais Christ a pris sur lui-même nos péchés et Dieu a puni nos péchés en punissant Jésus-Christ à notre place. C'est ainsi qu'il peut être juste pour nous pardonner nos péchés. Alors d'un côté, il rend notre confession possible et de l'autre côté, il rend notre obéissance possible aussi. Connaître Dieu, savoir qui il est et ce qu'il a fait pour nous en Christ nous pousse à l'obéissance. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Vous voyez comment Jean le dit? Celui qui obéit connaît Dieu. Il aime Dieu. Il est en lui. Il demeure en Christ. Plutôt que de nous donner l'image d'un enfant abusé ou d'un enfant gâté, il nous donne l'image d'un enfant aimé, un enfant qui sait qu'il est aimé. Un enfant qui sait qu'il est aimé, qu'il est véritablement aimé, est en sécurité auprès de son père. Et il répond à l'amour et à la sécurité que son père lui donne en l'aimant en retour et en voulant être comme lui. Quel petit garçon ne veut pas être comme son père qui l'aime? Notre obéissance n'est pas une condition de l'amour de Dieu pour nous, mais plutôt une réponse à son amour pour nous et une preuve de notre amour pour lui. L'obéissance n'est pas la cause, mais le résultat de connaître Dieu et d'aimer Dieu et de demeurer en lui grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. On verra ça sans cesse si on lit la lettre de Jean du début à la fin. C'est une lettre extrêmement pratique, presque de manière presque perturbante parfois. Il y a plein d'impératifs. Faites ceci, ne faites pas cela, et ainsi de suite. Mais ces impératifs sont presque toujours précédés par des rappels de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. La Bible nous donne beaucoup de commandements. Énormément de commandements, absolument. Et l'obéissance à ces commandements, c'est absolument nécessaire, comme une preuve de notre foi. Mais nous sommes toujours appelés à faire ces choses, à obéir à ces commandements, à cause de lui, pas pour gagner son approbation, mais parce qu'il nous approuve déjà. Pas pour gagner son amour, mais parce qu'il nous aime déjà. Dieu est bon et il est plein de grâce et il est aimant. Il nous a montré cela de manière suprême en Christ. Et puisque nous savons cela, puisque nous connaissons notre Dieu, nous sommes honnêtes concernant nos péchés. Puisque nous demeurons en lui, nous faisons confiance à son sacrifice. Puisque nous l'aimons, nous obéissons à ses commandements. Pratiquement chaque phrase de la Bible est écrite afin que nous nous posions cette question. Mais qui est ce Dieu? À quoi est-ce qu'il ressemble? Quel type de Dieu est-il? Quel type de Dieu ferait-il de telles choses? Quel type de Dieu se prendrait la tête à ce point pour pardonner le péché? Quel type de Dieu prévoirait depuis le début du temps de pourvoir en lui-même un substitut et un avocat pour défendre des gens qui le rejettent et qui le détestent encore? Quel type de Dieu prendrait sur lui-même la punition que ses ennemis méritaient, se laisserait tuer par des mains que lui-même a créées, et défendrait ceux qui méritent encore la punition, seulement parce qu'il les aime? quel type de Dieu exigerait quelque part de la part de son peuple, puis leur donnerait ce qu'il exige, puis les récompenserait pour ce qu'il leur a donné. Si Dieu a prouvé que c'est son désir de faire de telles choses, alors pourquoi ne voudrions-nous pas de lui? Vous voyez, la manière dont nous voyons Dieu va déterminer notre réponse à Dieu. Si nous avons l'impression que Dieu est un Dieu qui est dur et qui est trop exigeant, qui attend de sauter sur le premier péché qu'il voit, alors nous aurons peur de confesser nos péchés et nous subirons les commandements comme un fardeau. Mais si nous savons profondément que Dieu est un Dieu qui est si aimant et si bon et si plein de grâce, qui nous a tout donné et qui promet de nous donner tout encore, alors de quelle manière est-ce qu'on va voir la confession? La confession ne sera pas une épreuve à craindre, mais une source de soulagement quand nous sommes fatigués nous-mêmes par nos propres désobéissances. Si nous savons profondément que Dieu est un Dieu aimant et bon et plein de grâce, alors de quelle manière est-ce qu'on va voir ses commandements? Ils ne seront pas un fardeau qui empêche notre bonheur, mais une lumière qui brille sur un chemin tordu pour nous montrer comment il nous a créés, comment être le plus heureux en lui possible. Alors, notre question, qu'est-ce qu'un bon chrétien, du coup? Pour être honnête, être un bon chrétien n'a rien à voir avec nous et tout à voir avec lui. Il n'y a pas de bon chrétien. Il y a seulement un très, très, très bon Dieu. Dieu est un Dieu qui pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu est un Dieu qui sauve. Il nous a donné Jésus-Christ, notre défenseur et victime expiatoire. Dieu est un Dieu qui nous guide pour notre joie. Il nous donne des commandements qui sont toujours bons parce que lui, il est toujours bon. Et donc, parce que nous savons que Dieu pardonne, nous confessons nos péchés. Parce que nous savons que Dieu sauve, nous faisons confiance au moyen de salut qu'il nous a donné, Jésus-Christ seul. Puisque nous savons que Dieu est bon et qu'il nous guide pour notre joie, alors nous obéissons joyeusement à ses commandements. Peu importe qui vous êtes, que vous connaissiez Dieu, si vous connaissez Jésus-Christ ou non, il faut savoir que vous êtes incapable de faire ces choses. Tous les commandements que vous voyez dans la Bible, vous êtes incapable d'obéir parfaitement à ses commandements. Vous êtes incapable de voir et de connaître Dieu comme cela tout seul. Vous êtes incapable de répondre à Jésus-Christ tout seul. Alors du coup, j'aimerais vous inviter à prier. Que vous soyez chrétien depuis des années ou que vous ne soyez même pas chrétien du tout. Si vous voulez connaître ce bon Dieu, si vous voulez vous repentir et croire en lui, si vous voulez connaître ou grandir encore dans votre connaissance de ce Dieu et lui répondre en fonction de ce que vous savez de lui, je vous invite à prier avec moi. Père, nous nous sentons très mal équipés pour venir à toi parce que, aussi bon que tu sois, nous ne te voyons pas comme bon. Aussi miséricordieux que tu sois, nous ne comprenons pas ta miséricorde. Aussi plein de bonté que tu sois, nous sous-estimons toujours ta bonté. Seigneur, nous confessons que nous sommes des pécheurs. Nous nous sommes rebellés contre toi. Nous avons préféré nos propres désirs à ta volonté parfaite pour nous. Nous avons préféré notre propre convoitise au trésor que tu nous donnes en Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père, nous avons besoin d'un sauveur. Et merci de nous avoir donné ce sauveur en Jésus-Christ. Merci d'avoir déversé ta colère sur lui plutôt que sur nous. Merci d'avoir accepté son sacrifice, de l'avoir ressuscité des morts. Merci de l'avoir placé devant toi comme notre défenseur, le sceau d'approbation que tu as placé sur nous. Nous prions que tu nous aides à voir Jésus-Christ plus clairement et à l'aimer plus profondément. Aide-nous à voir en lui l'amour que tu nous as montré. Aide-nous à ne jamais douter l'étendue de ton amour et à ne jamais sous-estimer la profondeur de ta bonté. Aide-nous à croire, Père, que lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, lorsque tu nous demandes de renoncer à quelque chose, tu n'exiges jamais rien qui nous enlèvera notre bonheur ultime en toi. Aide-nous à croire que quand tu nous demandes de renoncer au péché et de poursuivre la justice en toi, tu nous demandes simplement de laisser tomber des plaisirs temporaires et minuscules en faveur des plaisirs infinis en ta présence. Aide-nous à croire que tu es bon et à voir tes commandements pour nous comme bons, afin que nous désirions les choses que tu nous ordonnes. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, ait comme source et motivation toi et toi seul. Tu le mérites et nous le voulons, et nous voulons le vouloir. Nous voulons te désirer, nous voulons t'aimer comme tu le mérites. Alors aide-nous, Père, nous le prions. Au nom de Jésus. Amen.